Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, je suis Julien Pereira et bienvenue dans le FC Stream Team. Cette semaine, pas de Maxime Dupuis, pas de Martin Mosnier, parce qu'on s'est dit que nos auditeurs avaient eux aussi droit à un petit peu de vacances, un petit peu de repos, et ne pas avoir leur voix prenante dans les oreilles, et bah ça fait du bien de temps en temps. Non, cette semaine, on accueille celui qui est, j'allais dire notre Lamine Yamal, mais en termes de timing, c'est peut-être pas idéal. Disons notre Warren Zaïre Emery à nous. Paul Citron, comment vas-tu, Paul ?
Hello Julien, ça va très bien, merci.
Pas trop stressé, Paul ?
Franchement, ça va.
Écoute, si t'es trop stressé, dis-toi que tu ne pourras pas faire pire que ceux qui sont là à ta place habituellement. Paul, on a concocté pour nos auditeurs un petit programme très sympa. On va faire le sommaire tout de suite avec, en premier sujet, difficile de passer à côté, Kylian Mbappé, qui sort non seulement d'un match compliqué face au FC Barcelone, mais aussi plus largement d'une période compliqué, toute compétition confondue. On va se demander à qui la faute. Est-ce qu'il faut en vouloir à Kylian Mbappé ou plutôt à Luis Enrique? On a entendu cette petite musique ces derniers jours. On en parlera en première partie.
Et puis après ça, on parlera de l'OM. Pourquoi ça coince? Parce que si les débuts de Jean-Louis Gasset avaient été couronnés de succès avec 5 victoires d'affilée, dès le début, il y a une autre série qui vient d'être battue, qui est historique. C'est 5 défaites de rang pour Jean-Louis Gasset à la tête de l'OM là, sur ses derniers matchs, avec cette défaite contre Benfica. Et c'est historique aussi parce que c'est pas arrivé depuis 2013. Donc qu'est-ce qui coince à l'OM?
Et en troisième partie, on évoquera un homme pour qui tout va bien depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, depuis le début de la saison. C'est Xabi Alonso qui a décidé de poursuivre l'aventure avec le Bayer Leverkusen alors qu'il était convoité par les tout meilleurs clubs d'Europe, notamment Liverpool. Et on se demandera s'il a eu raison justement d'ignorer les Reds. Voilà pour le programme. On vous rappelle que vous retrouvez ce podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouverez le FC Stream Team et toutes les émissions foot. On rappelle également que vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission en vidéo sur eurosport.fr. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et qu'on va pouvoir y aller, mon cher Paul.
C'est parti.
Première partie d'émission, Kylian Mbappé. On l'a dit, il sort d'un match compliqué face au FC Barcelone, quasiment invisible, parfois même un petit peu brouillon. Depuis un mois, ça se passe pas très bien. Il en est à un but et deux passes décisives sur ses six derniers matchs PSG et équipe de France confondus. C'est quand même assez loin de ses standards. Et puis, ces derniers jours, on a eu cette petite musique sur la responsabilité de Luis Enrique sur le faible rendement de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Ce qui nous amène à cette question, Paul, que je te pose. Si Mbappé est muet, si ça se passe moins bien pour Kylian Mbappé ces derniers temps, à qui la faute ?
Eh ben, moi, j'ai quand même, dans cet échec, en tout cas ce gros échec de mercredi soir, j'ai quand même envie de pointer d'abord la responsabilité de Luis Enrique.
Ah !
Parce que à force de faire comme si Mbappé était un joueur lambda dans son effectif, à force de le dire et à force de le faire sentir, en le faisant sortir par exemple à l'heure de jeu contre l'OM, et en fait en lui montrant que maintenant qu'il a annoncé qu'il ne serait plus là l'année prochaine, et bah il s'apprêtait à construire sans lui, il commence à construire sans lui, et bah à force en fait ça déteint sur les performances de Kylian Mbappé depuis ce moment-là, et c'est normal finalement. Un entraîneur vous fait sentir que vous n'êtes plus aussi important dans le groupe que vous ne l'étiez auparavant. Si on commence à vous faire sortir, si on commence en fait à vous montrer que vos responsabilités vont devenir différentes, moi je tout Kylian Mbappé qu'il soit, je trouve que ça s'entend en fait qu'il ait un peu moins de rendement, et ça se sent aussi quand il arrive face au FC Barcelone dans un des très grands matchs, peut-être un de ses derniers grands matchs avec le PSG et qui passe un peu à côté, même si évidemment il y a d'autres responsabilités, on va le voir.
Oui, et puis c'est, d'ailleurs, c'est lui le premier à dire que ces grands matchs sont faits pour les grands joueurs, que lui est fait pour ces matchs-là. Moi, j'ai un petit peu de mal quand même à faire de Luis Enrique le coupable. Bien sûr qu'il y a une responsabilité, notamment sur le lien technique, on l'a vu, il est moins servi, moins cherché, moins trouvé par ses coéquipiers. Et peut-être qu'effectivement, la réduction de son temps de jeu a eu un impact là-dessus. Il n'empêche, Kylian Mbappé n'a pas été le premier à se montrer très concerné par l'effort collectif depuis quasiment toujours. Ce qui s'est passé avec la réduction de son temps de jeu, bah, lui, il s'est un petit peu lancé dans une guerre d'ego. On se souvient de son one-man show à Monaco notamment. On se souvient de son attitude et son langage corporel face à l'OM quand il est sorti notamment aussi. Pour moi, la première responsabilité, notamment pour un joueur de son statut, de son envergure, c'est celle de Kylian Mbappé. Finalement, en plus, la question du temps de jeu, pour moi, ne tient pas beaucoup parce que Luis Enrique, c'est son management de faire tourner. Alors certes, il y a une histoire d'ego là-dedans, mais qu'est-ce qu'on devrait dire à tous ces autres joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables et qui, eux, donnent le meilleur d'eux-mêmes et sont plutôt réglo, j'allais dire, sur ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain.
Mais Luis Enrique fait tourner, c'est très bien, mais il a commencé à faire tourner, il a commencé à remplacer Kylian Mbappé, à ne le faire jouer plus qu'une heure par match environ, à partir du moment où Kylian Mbappé allait annoncer qu'il allait partir. Avant ça, on n'a pas trop entendu ça.
C'est une histoire d'ego, on est bien d'accord, c'est une histoire d'ego. Il n'empêche, la meilleure façon de montrer à Luis Enrique, qu'il a eu tort de faire ça, bah, c'était de se montrer concerné par le pressing, par les efforts défensifs, par les combinaisons, par l'attitude aussi, parce que c'est aussi une question d'attitude et de langage corporel. Et j'ai pas la sensation que Kylian Mbappé ait fait cet effort-là. Est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu démobilisé? J'ai pas envie d'y croire, parce que partir sur une victoire avec des champions ou sur un titre européen, ça aurait quand même une importance majeure dans sa carrière. Maintenant, je pense que j'ai la sensation qu'il n'a pas fait tous les efforts qu'il aurait dû faire pour montrer justement que Luis Enrique avait eu tort depuis le début en se lançant dans cette guerre d'ego avec la réduction de son temps de jeu. Et si aujourd'hui ça se passe pas aussi bien que ça le devrait, c'est plutôt à lui qu'il doit s'en vouloir. On va nuancer quand même un petit peu. Il y a un match retour.
Déjà.
Ouais. Et voilà, on pourra faire un bilan beaucoup plus complet après ce match retour là. Mais si élimination il y a, je pense que la part de responsabilité de Kylian Mbappé sera plus grande que celle de Luis Enrique. En tout cas, si ça se passe comme sur ce match aller.
Mais si on revient au match de mercredi. Alors déjà, il faut quand même rappeler que Jules Koundé a quand même fait un très bon match. Il faut aussi le signaler tout de même. On avait peur pour lui justement parce qu'à ce poste d'arrière droit, on sait que c'est quand même pas toujours extraordinaire ce qu'il nous propose. Et là, force est de constater qu'il a très bien tenu Kylian Mbappé, qu'il a aussi très bien été suppléé par Araújo derrière lui. Mais si on revient au match de mercredi justement, est-ce que c'est rendre service à Kylian Mbappé de mettre Asensio à la pointe de l'attaque avec Dembélé à droite et en fait de pas du tout le mettre dans les meilleures conditions pour jouer? Enfin, on l'a bien vu, il lui rend pas service en faisant ça tout de même.
Bah, alors ça n'a pas fonctionné, Luis Enrique l'a vu, ouais. Il a fait des changements à la mi-temps et moi justement j'ai plutôt l'impression que la rébellion qu'on a vue en début deuxième période qui a permis au PSG de reprendre l'avantage sur le FC Barcelone, bah, elle est pas venue de Kylian Mbappé. Elle est venue de Vitinha, elle est venue de Dembélé qui a fait un très bon premier quart d'heure de deuxième période, elle est venue d'autres joueurs mais pas de lui. C'est aussi ça qui me pose problème. C'est que finalement, s'il n'y a pas le même lien entre ses coéquipiers et Mbappé, bah c'est peut-être que ses coéquipiers n'ont pas adhéré soit à son comportement, soit à son attitude, soit à ce qu'il a proposé sur le terrain ces derniers temps. Et donc pour moi, le premier responsable, c'est Kylian Mbappé.
Il y a une action qui est criante en début de deuxième mi-temps. Je crois que c'est une des toutes premières actions. Mbappé la donne à Vitinha. Là, on est à la 47e minute, il y a toujours 1-0. Mbappé la donne à Vitinha, part, arrive à prendre la vitesse sur Koundé, donc se retrouve dans une situation où vraiment il est lancé, il peut rentrer dans la surface, et Vitinha, il faut quand même se rappeler de la timidité de Vitinha il y a quelques mois et les années précédentes, enfin, c'était vraiment un joueur qui était effacé, etc. Et on sentait que le poids d'Mbappé avait vraiment, et des grands joueurs, avait vraiment une importance pour lui. Et là, Mbappé, au lieu de lui donner, alors que vraiment ça peut être une solution, en tout cas c'est une vraie solution, la garde et frappe à 25 mètres et ne marque pas. Alors qu'il ne marque pas, c'est audible, mais le simple fait de refuser de la donner à un tel joueur, bah en fait, ça montre que le poids d'Mbappé dans le vestiaire et sur le terrain, c'est considérablement réduit. Et ça tient aussi à la manière dont il est considéré depuis quelques semaines.
C'est presque une nouveauté, effectivement. Je pense, mon cher Paul, qu'on a fait le tour de cette question et qu'on va pouvoir passer à un autre club français qui lui aussi s'est incliné en Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, battu jeudi soir en quart de finale aller à Lisbonne par le Benfica, 2-1. Alors, ça se passe beaucoup moins bien pour l'OM ces dernières semaines. On se souvient, il y avait eu le déclic avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, 5 victoires consécutives. Et depuis, il y a eu 5 défaites consécutives. Donc, on est quasiment revenu au point zéro.
À l'équilibre.
Ma question, Paul, c'est pourquoi l'OM s'est subitement arrêté ? Pourquoi l'OM plafonne depuis plusieurs semaines ?
Bah parce que déjà, c'est peut-être passé avec Jean-Louis Gasset ce qui ne s'est jamais vraiment réellement passé avec Gennaro Gattuso, à savoir un réel sursaut. Quand Gattuso est arrivé, on avait eu ce match contre l'AS Monaco, on avait vu des choses, on s'était dit « Ah, peut-être que le tempérament de Gattuso va réveiller quelque chose. » Et en fait, non. Il a fallu un monsieur quand même très calme, très serein, qui avec jamais un mot plus haut que l'autre, qui est très tranquille, en conférence de presse en tout cas, et qui en fait a réussi à redonner de l'énergie à ses joueurs et leur donner vraiment un shot vraiment d'énergie qui était extraordinaire il y a quelques semaines. Et puis là ça retombe, et en même temps c'est normal parce que c'est la définition d'un sursaut. En fait, derrière il y a un coup de mou clairement, et ce coup de mou il se trouve aussi avec la longue liste des blessés, même si c'est blessé, tu as quelques mots à dire sur eux, j'imagine, Jap.
Oui, c'est pour moi ça doit pas être une excuse. Parce que s'il y a des blessés, c'est qu'il y a eu un effectif qui a été mal géré. S'il y a un effectif qui a été mal géré, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été anticipées par la direction. Je pense notamment à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, j'ai un petit peu du mal avec cette excuse des blessés qu'on évoque beaucoup à Marseille comme de la malchance. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la malchance. Ça peut avoir un rapport avec une préparation de pré-saison qui a été ratée. A priori, elle l'a été sous Marcelino. Et comme je l'ai dit, avec le manque d'anticipation de certains événements et de certaines périodes. Maintenant, sur les difficultés rencontrées par l'OM, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas une surprise, parce que tu l'as dit, il y a eu ce déclic psychologique, et je pense effectivement que personne d'autre que Gasset n'aurait été capable d'avoir d'imprimer ce déclic-là. Mais lui-même l'a dit très tôt, finalement, en conférence de presse, il fallait trouver d'autres leviers pour poursuivre, notamment sur le plan tactique, etc. Le problème, c'est que cet effectif a des limites et que vous pouvez mettre Marcelino, Gattuso, Gasset, Abbandonado, Xabi Alonso, Pep Guardiola. Mm-hmm. Bah, à un moment, si ces joueurs-là sont limités techniquement et tactiquement, vous ne pouvez pas en tirer beaucoup plus que ce qu'ils sont capables d'offrir. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très criant ces derniers matchs, c'est qu'il y a des vraies limites techniques. Il y a beaucoup d'échecs techniques. On l'a vu encore une fois face au Benfica jeudi soir, parce qu'il faut quand même rappeler aussi, il y a de l'espoir pour l'OM, effectivement, tout est encore possible. Il faut quand même préciser que Benfica, c'est pas le Benfica de la saison dernière, ils sont plutôt sur une saison moyenne en championnat. Ils ont déjà perdu le titre la semaine dernière, ils ont pris 5-0 contre Porto, ils ont fait une phase de groupe qui a été très très compliquée, et que elle aussi c'est une équipe qui a des limites. Et finalement, Marseille a créé très peu de danger contre cette équipe-là. Donc vraiment, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, et c'est plutôt ça qui me fait dire que l'OM est à sa place, à la fois en Coupe d'Europe avec ce ballotage défavorable, aussi en Ligue 1, où maintenant il y a quasiment 10 points de retard. Enfin, c'est pas quasiment d'ailleurs, c'est 10 points de retard sur Lille qui est quatrième, et quasiment plus aucune chance de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, il faut se rendre compte que finalement, ce qui s'est passé quand Jean-Louis Gasset est arrivé, bah, c'était presque un petit miracle, et que derrière Pierre-Emerick Aubameyang, qui est l'arbre qui cache la forêt, bah, il n'y a pas grand-chose. Oui,
parce que, à bien y penser, comment on peut espérer retrouver les demi-finales d'une Coupe d'Europe et d'espérer jouer, donc ça aurait pu être contre Milan, ou là en l'occurrence ça aurait pu être Liverpool, finalement ce sera peut-être l'Atalanta qui passera en demi, mais comment on peut espérer jouer une demi-finale de Coupe d'Europe contre Liverpool en alignant en quart Luis Enrique piston droit, le faire passer arrière-gauche au bout de 55 minutes et ensuite le faire retourner à droite parce que Emran Çoğlu est rentré. Enfin, Luis Enrique hier, sur les deux buts, il est au pire fautif, au mieux responsable, parce que sur le deuxième but, c'est lui qui monte et derrière, il y a un boulevard. On prend un contre d'école d'ailleurs. Mais en fait, ce n'est pas rendre service à ce jeune homme de le faire jouer à des postes, enfin de le trimballer à des postes où il ne joue jamais. Déjà, de le faire jouer à ce niveau-là, alors que tout le monde sait, et je pense que Gasset le premier sait très bien que Luis Enrique n'a pas le niveau technique et n'a pas les épaules, et on le voit à la télévision, pour jouer à ce niveau-là. Donc, c'est en fait perdre 2-1 contre le Benfica parce qu'on a mis Luis Enrique arrière droit, bah, c'est assez logique. Et en même temps, quand Jean-Louis Gasset explique après le match que les choix non voulus, dans les choix forcés, on a Chancel Mbemba, dont on sait que dès le début du match, il ne va pas pouvoir jouer plus d'une heure. Donc il faut savoir avant le match que Chancel Mbemba va devoir sortir. Après, il y a Quentin Merlin, bon, qui se blesse, c'est pas de chance, mais ça arrive. Après, il y en a partout, et à force, bah, évidemment, que, à tricoter tout le temps, c'est pas possible de vouloir jouer à ses hauteurs et de vouloir être compétitif à ses hauteurs.
Et au-delà de ses limites physiques et de ce rythme qui fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a quand même des circonstances atténuantes, il faut aussi le dire, il y a une question d'attitude, encore une fois, et de leadership. Il y a beaucoup de joueurs dont on attendait beaucoup plus sur leur capacité à entraîner un groupe, qui ne sont pas vraiment au niveau attendu. Je pense à Samuel Gigot, qui certes est un capitaine, mais un capitaine qui, sur le plan des performances, n'est pas suffisamment irréprochable pour vraiment donner l'exemple. Je pense à Geoffrey Kondogbia aussi, qui est plutôt timide au milieu, même s'il fait le boulot. Puis il y a Amin Harit, Asdi Nounahi, on peut évoquer Asdi Nounahi également. Je veux dire, hormis Pierre-Emerick Aubameyang, quasiment aucun joueur, peut-être Leonardo Balerdi aussi. Dire,
L'autre qui se dégage et qui montre quelques petites choses parfois.
N'est véritablement au niveau sur le plan technique et aussi sur le plan psychologique, sur le plan de l'attitude. Ouais. Donc c'est ça le vrai problème de l'Olympique de Marseille. Et il faut quand même préciser qu'après ce match retour face à Benfica, il y aura encore des matchs compliqués. Il y a un déplacement à Toulouse et surtout il y a les réceptions de Nice et Lens qui sont des rivaux directs pour des éventuelles qualifications en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Troisième partie, mon cher Paul. Alors lui, il a beaucoup moins de problèmes d'effectifs, beaucoup moins de problèmes de joueurs, beaucoup moins de problèmes de résultats. C'est Xabi Alonso qui, il y a quelques jours, a annoncé qu'il poursuivrait l'aventure au Bayer Leverkusen, alors qu'il était annoncé du côté de Liverpool notamment, mais aussi du Real Madrid. Bref, il avait toute l'Europe à ses pieds. Il a décidé de rester. Ce qui nous amène à cette question, est-ce qu'il a eu raison de laisser passer le train une première fois ? C'est la question que je te pose, mon cher Paul.
Selon moi, il a eu entièrement raison. Enfin,
un sujet, on va peut-être être d'accord alors.
Ouais, bah, tu vois. Non mais en fait, qu'est-ce qui peut lui arriver ? La saison, il a déjà fait sa saison est déjà une superbe réussite avec Leverkusen, même s'il perd tous les matchs qui lui restent, parce que le championnat d'Allemagne est déjà quasiment gagné, ce n'est jamais arrivé pour Leverkusen. Donc c'est la fin de Leverkusen, c'est la fin d'un mythe vraiment en Allemagne, c'est la fin de cette espèce d'histoire de club qui perd tout le temps. On se souvient de la saison en 2002 où ils perdent tout à chaque fois au dernier match. Bah là c'est terminé, grâce à cet homme c'est terminé, donc ça c'est déjà extraordinaire. Et ensuite, ce qu'il est en train de construire avec Leverkusen, bah, il peut le construire franchement une année de plus, il y aura aucun problème là-dessus, parce que dans un an, si vraiment il réussit une nouvelle saison, Les grands clubs vont revenir à la charge, c'est certain.
Ils vont encore toquer à la porte. Ouais. Juste, on peut évoquer, lui, il s'est justifié auprès de nos confrères de TNT Sports en disant « Nous avons construit tout cela en un an, je ne voulais pas tout gâcher en partant. Dans ma réflexion, je me suis dit qu'abandonner les mecs après seulement un an n'aurait pas été juste et cela m'aurait fait un peu de mal, donc j'ai choisi de rester. La grande classe, ça fait du bien aussi de voir contrairement à la plupart des joueurs, bah, des entraîneurs peuvent encore avoir un attachement pour leur club. Et effectivement, je te rejoins sur... finalement, il a plus à gagner qu'à perdre en restant à Leverkusen. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait eu plus à perdre qu'à gagner en allant à Liverpool. Parce que succéder à Jürgen Klopp, c'est très compliqué. Que si ça se passe mal, bah, ça met un gros coup d'arrêt à votre carrière. Et là, entre guillemets, il n'a rien à perdre à Leverkusen. Même si Leverkusen manque sa saison la saison prochaine, on se souviendra de ce qu'il a fait. On se souviendra de ce qu'il a été capable de mettre en place à la fois en termes d'innovation, aussi en termes de résultats, évidemment, à Leverkusen. Il y a des choses nouvelles dans son utilisation des latéraux, dans son jeu de transition, des choses qui sont intéressantes et qui forcément vont interpeller les grands clubs, y compris la saison prochaine, y compris les saisons suivantes. Donc il n'avait rien à perdre à rester à Leverkusen. Et puis en plus, j'ai envie de dire que le Bayern n'est pas un club de Ligue 1 et que même si certains joueurs partent, il y a quand même de grandes chances qu'il soit très bien remplacé. Je pense à Boniface, je pense à des joueurs comme Grimaldo, même si lui, a priori, va rester. Je pense à Florian Wirtz aussi, qui est absolument brillant cette saison. Bref, il a beaucoup de choses à gagner, Xabi Alonso, en restant à Leverkusen.
Mais justement, c'est à double tranchant. Il a choisi de rester. Alors, évidemment, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de voir un entraîneur aussi attaché à son club. Mais s'il reste, c'est aussi qu'il sait très bien qu'il va avoir des moyens l'année prochaine pour continuer à être compétitif, voire l'être encore plus. Et justement, on dit que, enfin, se susurre le bruit que Wirtz va rester parce que Xabi Alonso va rester aussi. Donc en fait, il devrait réussir à maintenir un effectif qui sera au mieux aussi bon, voire encore meilleur, parce qu'on devrait également lui accorder un droit de regard pour les recrues cet été. Donc en fait, il reste parce qu'il sait très bien qu'il va avoir des renforts et il va avoir les mains libres en fait pour construire son équipe cet été, entre guillemets. Et ça va être... Enfin, c'est vraiment devenu l'homme fort de ce projet, quoi.
Il a la légitimité pour le faire. Et effectivement, oui. On peut penser que le fait qu'il reste donne envie à certains de ses joueurs cadres de rester. Sa situation m'a fait un peu penser à celle de Villas-Boas. Alors, toute proportion gardée, qui gagne tout avec Porto il y a 13 ans, Porto, maintenant, évidemment. 12 ans, et qui, Villas-Boas, avait fait le choix, lui, de partir en Angleterre. On a vu ce qu'est devenu sa carrière ensuite. Ça n'a pas été une franche réussite, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Et ça montre que Xabi Alonso fait aussi le bon choix là-dessus. Et puis vraiment, encore une fois, j'insiste, mais ça fait du bien de voir un entraîneur qui met des choses en place et qui décide vraiment de s'inscrire sur la durée et pas seulement de faire un coup d'éclat et de partir.
Puis il a rappelé, en plus, il l'a dit plusieurs fois, notamment dans la conférence de presse où il a annoncé qu'il restait. Il a donné cette expression plusieurs fois, c'est je me sens intégré et je me sens part de ce projet. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe à Leverkusen, c'est vrai que c'est un club qui vraiment lui correspond. Il y a tout l'encadrement de ce club, le président de ce club déjà est hispanophone, donc ça aide aussi. Il y a plein de petites choses qui montrent que Xabi Alonso est vraiment considéré à sa juste valeur et que ce choix, et en plus ce choix de rester, c'est ce que David Lortolari disait dans Tour d'Europe cette semaine ou la semaine dernière, il faudra vérifier. Mais il disait qu'en Allemagne, le fait d'avoir annoncé qu'il restait un an de plus alors qu'on sait très bien qu'il pourrait partir, ça lui a fait gagner encore plus de crédit, encore plus de respect aux yeux de tout le monde là-bas.
En sachant d'ailleurs qu'il n'y a pas la même pression qu'il pourrait y avoir au Bayern de Munich, oui, notamment, ou dans d'autres grands clubs. Donc bref, il avait tout à gagner. On a enfin trouvé une question sur laquelle on était d'accord, Paul. Et je trouve que c'est bien de terminer l'émission là-dessus.
Parfait.
Paul, un grand classique depuis quelques semaines, Seb qui est derrière la manette va me le confirmer, c'est de se noter nous-mêmes après les émissions. Quelle note te donnerais-tu, Paul ?
Sur 10 ou sur 20 ?
Comme tu veux. Sur 40 même, si tu veux.
Sur 40 un petit je me mets à la moyenne quand même. Je me mets à la moyenne
Petit quand même.
Ouais, mais bon, faut pas taper trop au début. Un petit 15, disons. Un petit 15.
Un petit 15 sur 40.
Un petit 15 sur 20.
Ah, 15 sur 20, c'est bien.
Un 15 sur 20, 30 sur 40.
Pour ma part, ça sera un 25 sur 20. c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vois Seb qui mime un boulard derrière. Je ne me sens pas du tout visé. On rappelle que vous retrouvez ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr. On vous rappelle aussi qu'il y a du lourd sur Eurosport ce week-end, Monte Carlo notamment, l'Amstel Gold Race en cyclisme. Vous allez vous régaler sur ce beau week-end qui s'annonce. Paul, merci beaucoup.
Merci déjà
pour cette fabuleuse émission.
Grand plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec je ne sais pas qui, peut-être Martin, peut-être Maxime. Peut-être aucun des deux. C'est le suspense. Vous verrez la semaine prochaine. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.